5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors c'est la rentrée pour Orion au chemin de l'espace.
Oui.
Hein, donc bonjour à tous. Orion chemin de l'espace vous a emmené en 2014-2015 sur les chemins de l'histoire de la conquête spatiale.
Oui, une histoire excessivement riche parce que qui a débuté le 4 octobre 1957. Hein, on s'en rappelle avec le lancement du premier Spoutnik par l'Union soviétique à l'époque et depuis que de chemin parcouru.
Donc on a eu l'occasion effectivement au cours de l'année dernière d'évoquer les pionniers, les lancements, les dates remarquables, enfin les grandes étapes en tout cas et les exploits des uns et des autres.
Tout à fait.
Hein, à propos de la conquête spatiale. Cette année, donc durant cette saison 2015-2016 qui commence, nous vous proposons une série d'émissions sur l'actualité du ciel et de l'espace.
Oui, parce qu'au-dessus de nos têtes, comme on a eu l'occasion de le dire, il se passe toujours quelque chose. On ne peut pas dire que chaque semaine, il ne se passe pas un lancement de quelque pays que ce soit, parce que les puissances spatiales sont chaque jour de plus en plus efficaces et nombreuses.
Eh bien, dans l'actualité du ciel et de l'espace, récemment, disons qu'il y a deux événements majeurs. Ce sont des sondes européennes, au passage, que sont Rosetta et Philae,
oui.
Les indissociables. Et puis, il y a aussi la sonde New Horizon qui a frôlé Pluton.
Voilà, alors deux conquêtes différentes sur une comète. Et puis, bien sûr, sur une planète déclassée du système solaire en 2006, hein, puisque cette planète Pluton, donc découverte en 1930 par M. Tombaugh, donc on cherchait hein, cette planète, on l'a trouvée donc en 1930. Et puis en 2006, l'Union Astronomique Internationale a décidé de la déclasser comme planète du système solaire à cause de sa taille.
Donc, on nous reviendrons plus en détail effectivement sur ces deux sondes. Et puis, un troisième sujet qui est d'actualité permanente, c'est des lancements qui se multiplient, les mises en orbite qui se diversifient aussi. Donc, on aura l'occasion aussi chaque mois de vous tenir au courant
de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Alors, Rosetta, Philae. On en est où ? On a entendu beaucoup de choses.
Un petit rappel, Rosetta Philae, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko qui, le 13 août, est passée au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Donc cette sonde qui a rejoint cette comète après un voyage de 10 ans. Et le 13 novembre de l'année dernière, donc Philae s'est posée donc, sur la comète. On a perdu la trace de Philae. Il ne donnait plus signe de vie. Et puis, miraculeusement, donc, au mois de juin 2015, réveil de Philae qui commence à émettre. Donc, et puis, on repère sa trace. On ne sait pas pourquoi.
En fait, on sait où il est, mais il cesse d'émettre. On ne l'entend plus.
On sait où il est, dans une position certainement très inconfortable, coincé entre deux rochers ou de la glace hein, sur cette comète. Donc, Philae émet au mois de juin. Bien sûr, tous les gens qui travaillent dessus sont émerveillés de pouvoir recevoir des signaux. On travaille dessus et puis d'un coup, on perd sa trace.
Alors, on rappelle quand même que son atterrissage ou son accométage a été un petit peu brusque et un petit peu mal contrôlé, on va dire. Il aurait dû se poser relativement en douceur et procéder à toute une série d'analyses. Et là, il est allé un petit peu dans son élan, de rebond en rebond, se mettre dans un trou. Et c'est ça le problème, finalement,
voilà,
parce que c'est l'absence de soleil qui est la cause de tout ça.
Trois rebonds, hein, on voit l'atterrissage. Donc, trois rebonds, les petits harpons qui devaient se déployer dessous pour s'accrocher un peu sur le sol cométaire n'ont pas fonctionné. Donc au bout de trois rebonds, eh ben, dans une position inconfortable, il va se mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une zone de rocher, de glace. Voilà. On perd sa trace parce qu'il est dans l'ombre. Il cesse d'émettre, les batteries sont déchargées. Se rapprochant du soleil, eh ben, finalement, la comète va réchauffer, va dégazer. Donc le petit robot va pouvoir recharger ses batteries. Effectivement, fin juin, il émet et il arrête. Et donc, c'est au mois de juillet, de nouveau, donc aux alentours du 10 juillet, pendant 20 minutes. Donc, alors là, tout le monde prend le bas de combat, que ce soit au CNES à Toulouse ou au DLR à Darmstadt en Allemagne. Tout le monde sur le pied de guerre. Il émet, il apporte énormément de données, hein, de connaissances, alors, qui sont enregistrées.
Qu'est-ce que l'on sait, justement, de ces émissions? Qu'est-ce qu'il nous a dit jusqu'à présent? Et est-ce qu'il peut nous dire encore des choses plus tard? Comment ça se passe?
Alors, il nous a dit certainement beaucoup, beaucoup de choses. Mais actuellement, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, avec ses deux pôles, on va dire principaux, donc Darmstadt en Allemagne et le CNES à Toulouse, donc recueille toutes ces informations, les stocke, et n'ont certainement pas eu le temps de tout dépouiller, tout ce qu'on a reçu. On a publié d'énormes images d'une beauté vraiment extraordinaire, où l'on voit la glace, où on voit une résolution de 150 mètres sur le sol cométaire. Ces images qui ont circulé sur Internet, hein, sur les deux sites, CNES et DLR, donc, et puis relayé bien sûr par les médias. Formidable, ces belles images. On sait à peu près la composition de la comète.
Hein. Rappelons qu'en fait, il allait chercher effectivement de près de quoi était composée une comète, et puis oui. On allait chercher aussi
les origines.
Pour nos éditeurs qui n'ont pas entendu la première émission, peut-être les origines de la vie.
Les origines de la vie.
La composition d'une comète, on peut la rappeler peut-être.
Oui, glace, roche, et puis quelques roches, bien sûr.
On a trouvé de la glace d'eau en particulier.
En particulier, même si c'est pas tout à fait à 100% l'eau terrestre. Hein. Voilà.
Alors Jean-Michel, Rosetta Philae, Rosetta, c'était le véhicule qui continue à tourner, finalement.
Qui continue à tourner, et donc à peu près actuellement à 180 km hein, de la comète, mais on peut bouger. Hein. On bouge beaucoup Rosetta pour essayer de rentrer en contact avec Philae chaque jour.
Donc Rosetta est toujours en activité, toujours sous contrôle.
Toujours en activité, toujours sous contrôle. Bien sûr, elle est bien placée autour du Soleil, puisque avec des panneaux qui font 32 mètres donc, de distance.
Voilà, pas de problème
d'alimentation.
D'énergie.
Oui. Alors donc, puisqu'on parle de cette sonde, Rosetta, qui a encore du carburant aussi, donc va pouvoir accompagner la comète Churyumov-Gerasimenko. Et à terme,
oui.
En 2016, les scientifiques ont décidé de pouvoir poser la sonde carrément sur la comète. Alors là, ça sera encore une aventure extraordinaire à vivre.
Ouais. Alors donc voilà, c'est son destin, c'est quand même effectivement de finir sur sa comète, en fait.
Bonjour comète, je vous ai rencontré et je finirai ma vie avec vous.
C'est un mariage, quelque sorte. Et Philae, donc Philae, on a toujours de l'espoir. Toujours en état de fonctionner si le Soleil lui parvient.
Alors aux dernières nouvelles qu'on a pu avoir, c'est que Philae aurait bougé un petit peu et une de ses antennes aurait été légèrement endommagée, ce qui va gêner les contacts. Mais bon, c'est tellement bizarre, hein. Ça se réchauffe, quelques heures de soleil, ou si l'orientation solaire, les rayons, rechargent les batteries, il peut réémettre. Bon, les programmations informatiques se font depuis Darmstadt, en Allemagne, et donc on est là, dans l'espoir.
On peut rappeler que la forme générale de la comète, c'est pas une boule.
C'est pas une boule.
Ça ressemble plutôt à une cacahuète informe.
Alors là, toutes les hypothèses ont été émises, mais bon, pour l'instant, les informations qui circulent, ce serait peut-être deux morceaux qui se seraient agglomérés.
Hein. La dernière version, ce serait ça.
On a eu cette hypothèse. Hein, parce que là, bon, vu que l'ESA, quand même, comme je vous l'ai dit, a énormément d'infos, hein, et bon, j'essaye de suivre assez régulièrement toutes ces informations. Donc, c'est ce qui est publié. Alors, il y a des gens qui travaillent, je crois que je peux vous rappeler, donc Jean-Pierre Bribing, Philippe Godon, donc du CNES Toulouse, et puis du côté du DLR, donc en Allemagne, vous avez Stéphane Oulamec, Andreas Aconazzo, donc des gens qui suivent ça, on va dire, ils dorment avec leur portable branché sur Rosetta.
Ils vivent une aventure formidable.
Formidable.
On peut les envier. Voilà. Et la comète, dans tout ça, elle voyage, elle nous arrive, enfin je vais dire.
Alors la comète
se rapproche du Soleil.
Donc si vous voulez, au cours de son passage au Périhélie, donc au 13 août.
Périhélie, c'est-à-dire
au plus près du Soleil. Alors, pour un petit moyen mnémotechnique, quand on trouve Péri, il y a Péri et Aphélie. Hein, Aphélie, c'est au plus loin, Périhélie. C'est, vous pensez à périphérique et ça vous permet de dire qu'on est au plus près.
Au plus près.
Voilà. Donc, le 13 août, je vous ai dit, elle était au plus près du Soleil. Et donc, certains observateurs astronomes ont pu la voir. Alors, bien sûr, c'était dans la constellation des Gémeaux. Donc, c'était surtout le matin, juste avant le lever du Soleil.
Alors, deuxième événement. Alors, toujours dans les sondes, et là, c'est une sonde américaine, en fait, dont on va parler. C'est la sonde New Horizon, qui a frôlé il y a quelques temps.
Le 14 juillet.
Le 14 juillet. Cocorico, pourrait-on dire, mais non. La planète naine, Pluton. Pourquoi oui. Planète naine?
Alors donc, dans le système solaire, vous avez des grosses planètes, des plus petites planètes, et puis on a trouvé donc en 1930 cette planète Pluton, et en 2006 l'Union astronomique internationale l'a déclassée parce qu'on a trouvé beaucoup de petites planètes, soit entre Mars et Jupiter, qui étaient relativement importantes, donc on a dit que Pluton, on allait la mettre dans les planètes naines. Oui. Alors, au-delà de Pluton, on a trouvé aussi bien d'autres planètes, notamment une qu'on a appelée Sedna, Orcus, Ixion, Varuna, Kaoha, Makemake. Voilà, ce sont des planètes qui sont au-delà de l'orbite de Pluton, des petites planètes. Alors, pourquoi garder Pluton comme dans le système solaire, puisqu'il y avait d'autres planètes aussi grosses que Pluton dans ces zones-là?
Alors, la définition d'une planète, c'est quand même un objet qui a réussi à attirer à lui toute la matière.
Voilà.
Alors qu'une planète naine, justement, n'a pas fait complètement ce travail. Il y a encore plein d'objets qui tournent autour.
Voilà. Et puis, il faut qu'il y ait un certain diamètre, une certaine masse pour que ça soit considéré comme une planète.
Voilà pourquoi on parle de planète naine. Et voilà pourquoi Pluton a été déclassé pour rejoindre toute une famille de planètes naines qui existent.
Avec une interrogation, parce que certains astronomes recherchent toujours une planète de masse terrestre au-delà de l'orbite de Pluton. Une planète X, pour l'instant.
Et qu'on n'a pas encore trouvée. Alors, on peut dire qu'en matière de conquête spatiale, on connaît bien toutes les planètes maintenant, je veux dire toutes les visites, les sondes, les missions ont observé la plupart des planètes. C'était pas le cas de Pluton.
C'était pas le cas de Pluton.
C'était la dernière finalement.
Oui, la plus loin parce que donc elle fait le tour son orbite autour du Soleil, c'est en 248 ans, c'est énorme.
Voilà.
Donc, et en plus, elle est pas dans le plan de l'écliptique où tournent toutes les planètes. Elle a une orbite un peu penchée.
Un peu originale.
Voilà.
Hein, elle tourne un petit peu, franchement, au crabe.
Ouais, ça a joué aussi dans son déclassement, ça.
Oui. Alors, donc on voit bien, c'est une planète qui est très très loin, qu'on ne connaissait pas. Même à l'observation, c'est délicat de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a sur cette planète. Donc, on décide, il y a pas mal de temps déjà, d'envoyer une sonde, la sonde New Horizon, pour aller voir de près.
Où c'est New Horizon, là, ça remonte très très loin. Il y avait un astronome américain très célèbre alors qui s'appelait Carl Sagan, hein, donc qui était très très intéressé par Pluton, donc, et qui a beaucoup travaillé à la NASA pour préparer un peu tout ce qu'on vit en ce moment, quoi.
Alors donc New Horizon part à la découverte.
2006.
Il part comment? Quelle fusée?
Donc par une fusée américaine, je me souviens plus.
Oui, donc.
Fusée américaine.
Cap Canaveral ou.
Ou Vandenberg en Floride. Alors là, donc elle part des USA.
Donc ça part, et donc là, il faut aller très très loin. La vitesse, il y a cette accélération gravitationnelle que l'on avait évoquée.
Il y a eu des assistances gravitationnelles, mais mais surtout après vraiment une trajectoire en ligne directe, quoi, hein, pour aller au plus vite, prendre de l'élan. Donc vitesse de Pluton au passage, vitesse de l'horizon au passage de Pluton, on est à peu près de 50 000 km/h.
Alors on rappelle qu'une fois que l'on a un élan dans le vide, oui, de l'espace, eh bien rien ne freine, donc la vitesse est constante.
La vitesse reste relativement constante.
Relativement constante. Oui. Et donc malgré cette vitesse importante pour un homme, oui, pour un petit humain de base, il faut quand même plusieurs années pour faire le voyage.
9 ans.
9 ans.
Alors, je me souviens du lancement de Pluton, puisqu'à l'époque, la NASA avait communiqué un petit peu et avait envoyé aux gens qu'ils souhaitaient, donc de mettre leur nom à l'intérieur de la sonde, et on recevait un petit certificat, comme quoi dans un CD qui est à l'intérieur de New Horizons, eh ben, votre nom serait inscrit. Donc, il y a pas mal de gens qui ont inscrit leur nom dans ce CD qui est maintenant à quelques milliards de kilomètres de nous.
Oui, Jean-Michel, donc cette sonde New Horizons passe au plus près, est passée au plus près le 14 juillet dernier.
Alors des images spectaculaires. Et je vous invite, parce que ça circule bon, sur les sites astronomes sur Internet, une image faite par Hubble en 2010 et l'image faite par Pluton le 14 juillet. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Alors, on voit les détails, on a pu voir des montagnes assez élevées sur Pluton, bon, composées, on va dire, d'azote quand même, à un très fort pourcentage.
Alors, cette sonde s'approche à vitesse assez importante. Donc, dès le 11, 12, 13, 14 juillet, les photos, s'enchaînent.
Des données scientifiques recueillies par la NASA. Et contrairement à d'autres objets qui se mettent en orbite, cette sonde-là ne se mettra pas en orbite.
Donc, le 14 juillet, elle continue son chemin.
Elle continue son chemin.
Et qu'est-ce qui va lui arriver donc, une fois que... Bon, elle aura pris peut-être encore des photos le 15, le 16, le 17, peut-être.
Oui, oui,
peut-être. Mais bon, disons, à Noël, elle en est où?
À Noël, eh ben, elle continue, elle voyage, elle va au plus fond. Alors, qu'est-ce qui se passe après, au-delà de Pluton? Ben, il y a plein d'autres planètes, hein, comme on l'a cité tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a cette ceinture de Kuiper, cette ceinture donc au système solaire. Et ensuite, vous avez le nuage d'Oort. Donc, cette sonde va continuer son trajet là-bas et nous ramener des informations sur ce qui se passe au-delà de l'orbite de Pluton.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous disent, mais toutes ces fusées, tous ces astéroïdes qui tournent, comment se fait-il que... ne se rendent pas dedans, quoi. Pourquoi si peu d'accidents ou pas du tout d'accidents?
Si, il y en a.
Dans la ceinture de Kuiper.
Ah, dans la ceinture de Kuiper, les accidents qui s'en passent certainement, mais c'est tellement loin qu'on ne le voit pas. Par contre, ce qui se passe dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, on a quelques données parfois d'objets qui se télescopent, on va dire.
En tous les cas, nos sondes passent très bien.
Bon, alors, beaucoup de monde, beaucoup d'objets, beaucoup de roches, mais il y a quand même de la place.
Donc, les principales informations, même si c'est encore récent et un peu secret, bien sûr, tout le monde, ces photos ne vont pas être, les analyses en plus, ne vont pas être divulguées tout de suite par la communauté scientifique. Mais bon, d'ores et déjà, qu'est-ce que l'on peut dire de Pluton en dehors de cette première impression de montagne?
Voilà, sa composition, le calcul de son diamètre, tous les chiffres qu'on avait, qui vont être affinés par New Horizons.
Confirmés, etc.
Voilà, ça c'est important. Plus on est près de quelqu'un, plus on peut voir en détail comment il est, à quoi il ressemble.
Jean-Michel, après Rosetta Philae et la sonde New Horizon, qui vient de visiter Pluton, on aura l'occasion d'ailleurs dans Orion Chemin de l'Espace de revenir,
puisque
dans l'actualité restera marqué par ces deux aventures. Bon, un troisième thème qui est important en l'actualité, c'est tous les lancements. Ils se multiplient, ils se diversifient, il y a des fusées partout, des satellites. Tous les pays se mettent à faire envoyer leurs propres satellites.
Et oui, tout le monde veut ces objets dans l'espace pour être indépendant, on va dire. Hein, voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la présence de l'homme dans l'espace.
Alors, il y a l'ISS. Disons un mot sur l'actualité de l'ISS,
qui est
la Station Spatiale Internationale.
Donc, qui orbite en 1h32 minutes au-dessus de nos têtes, 6 personnes dans la station. Donc, dernier départ, c'était le 22 juillet. Donc, 3 hommes qui ont rejoint, les 3 en orbite. Et préciser que les 3 en orbite, donc là-haut, il y a donc Scott Kelly, Mikhail Kornienko et Gennady Padalka. Donc, ils ont des choses importantes, ces 3-là. Ils ont un point commun, on va dire. Gennady Padalka, c'est l'homme qui a passé actuellement le plus de temps dans l'espace. On a 800, presque 900 jours, donc c'est important. Donc ensuite, Scott Kelly et Mikhail Kornienko, eux, ils ont signé pour un an là-haut, un an dans l'espace.
Donc là, on est sur des expériences plutôt médicales, voilà. Humaines. Donc,
alors souvent, quand on parle un peu de cette station spatiale, comme je dis aux gens, vous imaginez si nous, on restait fermés dans une pièce, enfin, on va dire, dans un petit appartement sans confort pendant une année à réaliser des expériences. Il faut vraiment être très, très bien préparé. Il faut un physique et un mental à toute épreuve.
Alors cette ISS, cette Station Spatiale Internationale, on la voit passer régulièrement dans le ciel. Ça ressemble à quoi pour quelqu'un qui connaît peu les étoiles?
Un gros point lumineux. Souvent, lorsqu'on voit Vénus dans le coucher du Soleil, ça ressemble un peu à cette planète Vénus.
Donc c'est franchement plus lumineux que l'étoile la plus brillante.
Tout à fait, franchement, oui, c'est très lumineux et puis ça passe très très vite.
C'est-à-dire vite
28 000 km/h.
Oui, mais il faut combien de temps pour traverser le ciel?
Alors, ça dépend si elle est vraiment au zénith. Hein. Au zénith, ça peut être de l'ordre de 5-6 minutes, hein, de son apparition jusqu'à sa disparition. Si vous êtes sur une zone à 360 degrés bien dégagée, si vous êtes dans une zone moins disponible, ben vous la voyez passer, donc des fois si elle passe 30 degrés au-dessus de nos têtes, on voit très très bien cette ISS. Essayez de pointer les jumelles dedans, vous allez voir que ça va vite. Hein.
Donc l'ISS, finalement, l'aventure continue.
C'est l'aventure humaine.
Et l'avenir est au beau fixe, c'est-à-dire
au niveau
des budgets, ça
2020, pour l'instant, surtout les grands contributeurs que sont la Russie et les USA, c'est 2020 pour l'instant.
Alors, c'est à bord, effectivement, ces fonctions effectivement des contributeurs, comme vous dites. L'Europe est un des contributeurs, mais c'est pas le plus...
Non, l'Europe participe, notamment avec son laboratoire Columbus, hein, qui est amarré à la station. Des astronautes européens qui vont régulièrement, dont le prochain, nous aurons l'occasion d'en parler, 2007, puisque c'est le Français Thomas Pesquet,
qui se prépare et qui est l'arme au pied, on pourrait dire. Voilà. On rappelle un peu quand même les nations qui sont ou qui ont été représentées jusqu'à présent.
Alors, les 22 nations de l'Europe, mais bon, surtout l'Italie est la première, hein, oui, au niveau de l'Europe. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre.
En dehors de l'Union soviétique, enfin de la Russie, pardon, et des États-Unis, il y a d'autres pays comme le Japon.
Le Japon, hein, puisque nous avons actuellement un Japonais dans la station.
D'accord.
Voilà.
Donc, beaucoup de pays représentés et pas simplement américains ou russes.
Voilà. Oui. Donc, après, c'est une question aussi donc, si vous voulez envoyer un homme dans l'espace, eh ben, il faut qu'il soit préparé, qu'il soit formé du côté russe, du côté américain, et puis du côté de son pays aussi, parler plusieurs langues, bien sûr.
En ce qui nous concerne, donc, c'est Thomas Pesquet qui est l'homme de la prochaine mission.
L'homme de la prochaine mission, voilà.
Alors, l'ISS, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, une grande diversité de satellites qui sont envoyés. On parle de nanosat, de tubesat, de cubesat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors, c'est une nouveauté qui se met en route depuis, on va dire, quelques petites années. Là, hein. Donc, c'est nanosatellites. Alors, pourquoi tubesat? Pour la forme d'un tube. Pourquoi cubesat? Parce que c'est la forme d'un cube. Bon, vous imaginez aujourd'hui tout ce qu'on a dans un téléphone portable, toutes les applications qu'on peut avoir. Bon, c'est énorme. Donc, dans un petit cube de 10 cm de côté, eh ben, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses. On le recouvre de panneaux solaires. Il va le tourner en orbite basse et il va pouvoir donner des tas d'informations sur tout ce qu'on veut, hein, sur toute la recherche. Alors, comment on fait? Ben, chaque fois qu'il y a un lancement de fusée, ben, on arrive dans la coiffe à rajouter quelques petits cubesat ou CubeSat, ou souvent dans les cargos ravitailleurs de la station spatiale, on va mettre comme un sac de grains de blé, quelques dizaines de petits satellites qui seront égrenés par les astronautes.
Donc là, on est dans la conquête commerciale de l'espace, puisqu'en fait, derrière tous ces petits satellites, ce sont des prestations, des services et donc des produits qui seront vendus d'une manière ou d'une autre sur Terre. Oui. On peut rappeler qu'entre la météo, qu'est-ce qu'il y a comme, comme client, entre guillemets, de ces...
Des tas de clients et des tas de recherches, parce que vous avez beaucoup d'universités américaines qui produisent leurs petits satellites, et si la NASA rentre dans les plans, dire ok, votre objet nous intéresse, donc, il peut apporter quelque chose.
La recherche un peu opérationnelle.
On est dans la recherche, dans des applications, et puis si ces applications marchent très bien, vous allez les retrouver dans votre smartphone dans quelques années.
Bien Jean-Michel, merci, on a fait quand même un petit tour, même rapide quand même, de cette actualité du ciel et de l'espace.
Parce qu'elle est tellement riche et tellement dense qu'il nous faudrait des heures pour tout raconter.
Alors on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau regard sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Pour terminer quand même, rappelons peut-être soit de la littérature, est-ce qu'il y a des choses à lire, et puis les sites sur lesquels on peut...
D'ailleurs vous pouvez retrouver quelques infos sur notre site, www.orion43.fr. Vous allez sur le site du CNES, CNES.fr, vous avez sur le site de l'ESA, sur le site de la NASA. Vous pouvez aller sur le site russe aussi, Roscosmos, donc après il suffit de traduire avec les applications donc Internet. Voilà. Et puis je vais vous parler quand même, on en reparlera en mois de novembre, c'est les 50 ans de notre premier satellite français Astérix.
Alors on ne le rattrapera pas, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, vous avez noté qu'à travers le site d'Orion, orion.fr, vous avez effectivement tous les liens qui vous renvoient sur les sites que l'on a évoqués. Merci Jean-Michel.
Merci et puis à bientôt.
À bientôt et suivons cette actualité du ciel.
1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.